Bonjour, je suis Camille et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast La Voix des Invisibles. Ici, on parle de ceux que l'on n'entend pas. Ici, on met en mots des parcours de travailleurs sociaux. Et ici, en toute simplicité, je leur donne la parole pour qu'ils puissent se raconter, nous raconter, par où ils ont commencé, par quoi ils sont passés, leur quotidien de travail, là ou les situations marquantes qu'ils ont accompagnées, le ou les publics pour qui leur engagement est plus fort, parce que oui, on a tous nos préférences. Qu'est-ce qu'ils retiennent de toutes ces rencontres humaines, leur avis sur le travail social d'hier et celui d'aujourd'hui, et bien plus encore. J'espère que vous trouverez ces parcours aussi inspirants et enrichissants que moi. Belle écoute à vous. Noélie, elle est assistante sociale de formation. Son ambition et son envie de poursuite d'études l'ont conduit à valider un master 2 directement après le diplôme. Parcours plutôt avant-gardiste à l'époque où le diplôme d'État n'est pas reconnu Bac plus 3. Riche de ses enseignements et expériences professionnelles, au moment de trouver un travail, son cœur balance entre travailleur social ou cadre. Et puis finalement, elle se dit « c'est eux qui choisiront ». Je vous laisse découvrir son parcours qui permet d'ouvrir le champ des possibilités de mon métier. Belle écoute à vous. Bonjour Noélie.
Bonjour Camille.
Bienvenue et merci d'avoir accepté mon invitation. Bon, on se connaît très bien.
Oui.
Si on fait référence à Annaëlle dans l'épisode 1, on fait partie du même groupe. Donc c'est avec plaisir et honneur que je te reçois aujourd'hui pour que tu puisses nous raconter ton parcours. Je te laisse te présenter, nous dire ton âge, ta formation initiale que je viens un petit peu de dévoiler et depuis quand tu es dans le social.
Donc je m'appelle Noélie, j'ai 27 ans, je suis mariée, j'ai un enfant et je suis travailleur social, donc assistante de service social de formation et depuis maintenant 7 ans.
Ok. Qu'est-ce que tu voulais faire toi à la base quand t'étais petite ?
Alors quand j'étais petite, je pense que c'était le rêve de presque toutes les petites filles. Je pense que je voulais être institutrice, peut-être un jour. Je ne sais pas, mais en tout cas, cette envie de transmettre, je crois que c'était ce qui me donnait envie à l'époque.
Ok. Et du coup, comment tu t'es dit, comment un peu la vocation t'est venue de pouvoir œuvrer dans le social, dans le champ du social en tout cas?
Alors... À l'époque du lycée, je me destinais plutôt à faire des études courtes. J'avais envie d'une formation qui soit, contrairement à la fac, qui soit pas anonyme, si je peux dire, sans jugement, mais je voulais une formation qui soit plutôt cadrée. Et naturellement, je me suis dirigée vers un concours d'infirmière,
okay,
l'année de mon bac. Et j'ai été reçue, enfin j'ai eu l'écrit, et puis à l'oral... Ce qui était drôle, c'est que le jury m'a fait le retour que j'étais pas au concours d'assistante sociale, dans okay. Ce que je pouvais renvoyer, je pense, à l'oral. Et puis, inconsciemment, en fait, ce jury est venu semer une petite graine chez moi. Et cette année-là, j'ai pas passé le concours d'assistante sociale parce que à l'époque, j'étais pas forcément très très bien renseignée, mais j'étais mineure. Et donc, du coup, je pouvais pas passer le concours d'assistante sociale. Donc, j'ai cherché une formation courte, encore une fois, qui puisse être dans le même secteur. Donc là, j'ai intégré un BTS économique, social et familial. Et puis, au cours de cette année, je me suis dit que j'allais passer le concours d'assistante sociale. Je l'ai passé donc à Dijon,
okay.
J'ai eu l'écrit, puis l'oral, et donc j'ai quitté ce BTS. Ce BTS qui ne me correspondait absolument pas, dans le sens où je trouvais absolument pas ça assez concret, et je le trouvais bien trop éloigné finalement de mes attentes par rapport au travail social et l'image que j'en avais à l'époque.
Ouais, le BTS forme plus à quelque chose de très technique dans les deux premières années, et c'est vrai que si tu t'attends à faire du travail social pur et dur, c'est pas le bon endroit.
Voilà, le BTS, c'est exactement ce que tu dis, Camille. Je pense que j'aurais voulu directement sauter le BTS et aller en troisième année, l'année de spécialisation pour être conseillère en économie sociale et familiale. Mais ça n'a pas été le cas. Donc, je suis rentrée à l'IRTES, en fait,
oui,
en 2012, en même temps que toi.
Oui.
Et là, vraiment, ça a été... vraiment, c'est venu me... me convaincre complètement sur ce que je voulais faire. J'ai eu aucune crainte, et je pense que c'est peut-être la première fois où j'ai eu aucune crainte finalement dans mes premiers jours d'école. J'ai pas eu ce stress, si tu veux, du début de formation.
C'était naturel pour toi. Tu t'es dit, ouais, je suis à ma place, c'est bon.
Voilà, c'était naturel. Et puis, je me rappelle m'être fait cette remarque en me disant... si on est venu passer ce concours, on n'est pas sur un job alimentaire. Je me suis dit, si on est venu passer ce concours, c'est que forcément, les gens que je vais retrouver vont avoir des valeurs communes avec moi. Et forcément, certains vont me ressembler. Et, et vraiment, j'avais aucun stress à commencer cette formation, ni de connaître personne. Et donc, c'est comme ça que je commence ma formation avec vraiment un bon état d'esprit. Et puis là, on défile les 3 années.
Eh oui, on défile les 3 années. La première, ça a été quoi un peu ton ressenti sur cette première année? Ton premier stage, tu l'as fait où?
Alors, ma première année se passe plutôt très bien. Les contenus de cours sont très riches, très diversifiés. Et je pense que j'avais envie de ça.
Ouais.
On est vraiment sur une promo... qui fonctionne plutôt bien avec des professeurs, en tout cas ceux de l'IRTES qui nous connaissent. Et je pense que j'avais besoin de ça aussi, de vraiment former ce groupe.
Ça répond effectivement à ton attente. Tout à l'heure, tu disais effectivement, c'est pas un jugement, mais à la fac, c'est des amphis, tu vas pas forcément au même cours, donc tu croises pas forcément toujours les mêmes personnes. Là, on était... je ne sais plus, 56,
oui,
dans la même,
oui,
oui. Même salle,
oui.
7 heures par jour. Donc, ça, effectivement, ça resserre un peu les liens tout de suite et les profs nous connaissent. Donc,
Et en tout cas, à 18 ans, à la sortie du bac, j'avais besoin de ça. Et donc là, arrive la période de nos stages. Je fais un stage... dans un service social scolaire,
okay.
À Châtillon-sur-Seine, donc à peu près à 1h30, 2h de Dijon.
Ouais, plutôt rural du coup,
voilà,
pour qu'on décrive un peu pour ceux qui ne situent pas trop. Ok,
oui.
Plutôt dans le rural.
Donc, pour moi, c'est très enrichissant puisque dans tous les cas, j'ai envie d'apprendre et j'ai envie d'observer, j'ai envie de me confronter au terrain. Je suis avec un assistant social homme. Donc,
c'est assez rare pour le
voilà,
souligner.
C'est assez rare. Et c'était très bien comme ça, mais voilà. Et donc, c'est parti pour 2 mois où vraiment je suis confrontée à un public jeune.
Mm-hmm.
Je suis moi-même jeune. Donc ça a sauvé.
T'as quel âge du coup, on précise
J'ai 18 ans.
Ouais, 18, ok.
Donc c'était particulier parce que du coup j'étais à la fois dans des collèges et puis lycées, mais en tout cas avec un public jeune qui aurait pu rencontrer les mêmes problématiques que moi, enfin voilà. Et pour autant, j'ai été vraiment bien accompagnée, on a pu parler notamment c'était mes premières situations en protection de l'enfance, c'était passionnant hein, quand on vient en tout cas quand on se lance dans cette formation, je pense que c'est... aussi des services qui sont incontournables. Et vraiment, je me nourris de tout ce que je peux observer. J'apprends et j'en retiens que du positif de ce stage, mis à part peut-être les trajets. Ils étaient longs.
Tu faisais les allers-retours tous les jours.
Voilà.
Donc en fait, oui, là, on souligne un peu de la motivation quand même à faire 1h30 de bus tous
c'est
les
ça,
jours.
Oui.
Ok, tu sors comment de cette première année? Qu'est-ce que tu dis? Tu confirmes ton choix professionnel tout au long de l'année ou tu as un petit doute? Non, fais non de la tête.
Non,
donc...
non. Non, j'ai aucun doute. Et puis, je pense que j'ai un caractère où je réfléchis suffisamment longtemps pour, une fois que je suis engagée, me dire que finalement j'ai fait le bon choix et pas forcément revenir dessus. Et là, vraiment, c'est ce que tu dis. Voilà, mon choix professionnel, il est clair. J'ai envie d'aller au bout de cette formation, je m'y retrouve au niveau scolaire mais au niveau perso aussi et ensuite on rentre en deuxième année,
oui, donc on commence par pas mal de cours,
oui,
pas mal de cours et on intègre un stage en, je sais plus, novembre, décembre,
oui,
peut-être
assez long,
un stage en groupe.
Alors moi j'étais pas en groupe. Pour mon
c'était
stage.
Pas en groupe.
Non, j'ai fait un stage en polyvalence de secteur,
okay.
Dans un accueil solidarité famille. À l'époque, on les appelait comme ça, en Côte d'Or.
Au conseil départemental.
Voilà, okay. Au conseil départemental de Côte d'Or. Et je crois que qu'il est vraiment important au cours d'une formation de faire un stage de ce type. Pour moi, la polyvalence de secteur, peut-être pour le décrire aux personnes qui nous écoutent, qui ne seraient pas du secteur social, je le décrirais un peu comme le médecin généraliste du social, c'est-à-dire qu'on peut être confronté à tout type de situation, en tout cas dans le secteur où j'étais, on pouvait être confronté à tout type de situation, tout type de public. Et finalement, on oriente si besoin sur des services plus spécialisés. Mais en tout cas, ça permet de traiter vraiment une multitude de problématiques et on est sur une grosse équipe où on retrouve à la fois des éducateurs spécialisés, des assistantes sociales, des agents administratifs, etc. Et puis ça permet aussi de comparer nos pratiques professionnelles, notamment par rapport aux éducateurs spécialisés, et de voir comment finalement, dans le cadre d'entretien, quelles sont nos particularités, comment on mène un entretien quand on est plutôt éduc, plutôt KS. Donc ça, c'était très, très riche.
Donc ce stage-là, il permet peut-être que tu affines un peu ta posture, ton positionnement, ton style, un peu en piochant un peu chez les uns et chez les autres. Ok, est-ce que tu peux nous citer quelques problématiques que tu as pu rencontrer, juste pour qu'on puisse illustrer la polyvalence, qu'est-ce que c'est, quel type de demandes tu peux recevoir sur ces services?
Alors, sur ce type de service, on a beaucoup de ce qu'on appelle l'insertion. Donc, on est sur des problématiques liées au logement ou liées à l'alimentation. On est sur des aides donc alimentaires. On peut aussi être sur tout le volet plutôt lié à la protection de l'enfance. C'est-à-dire que en France, si quelqu'un pense qu'un enfant est potentiellement en danger, on a un numéro qui est le 119 qu'on peut appeler pour dénoncer ce qui peut se passer. Et ensuite, cette information, ce qu'on appelle cette information préoccupante, revient sur le secteur où réside la personne. Et puis nous, on est en charge, enfin le travailleur social en tout cas, est en charge d'évaluer. Et donc c'est des choses que j'ai pu observer avec la tutrice de stage de l'époque. Et voilà, et ça, c'était vraiment ce qui avait de plus intéressant, j'ai envie de dire, dans ce que j'ai pu observer en stage. Ouais. En tout cas, c'est ce qui m'animait et c'était excitant à la fois parce que c'est vraiment concret. On est sur de l'évaluation, il y a une vraie prise de décision.
L'évaluation, c'est vrai que c'est assez intéressant parce que tu te mets un peu en mode... pour illustrer du coup détective en fait tout élément peut paraître intéressant pour comprendre la situation et savoir pourquoi effectivement l'information préoccupante elle arrive dans les services. Ouais, OK. Donc ouais, la protection de l'enfance même effet. Beaucoup du coup de dire qu'à un moment donné quand tu es stagiaire, tu as le droit de toucher un peu ça du bout du doigt.
Oui.
OK. D'accord, donc deuxième année, tu remets pas du tout en question ton choix, pour toi c'est fluide et là tu attaques la troisième année.
Voilà.
Ton stage 3, du coup, tu le fais où ?
Le stage 3, je le refais en service social scolaire.
Ok.
Pour une durée beaucoup plus longue.
Ouais. C'était 20 et quelques semaines, ouais, 24 semaines,
ouais,
je crois.
Oui. Et là, donc, par contre, avec beaucoup plus d'autonomie, j'ai la chance d'être avec une assistante sociale qui a une formation de psychologue et qui finalement me... Alors, je ne sais pas si c'est ça... En tout cas, qui a l'habitude d'accueillir des stagiaires, qui est bien connue à l'IRTES de Dijon et qui me laisse vraiment beaucoup de possibilités et qui m'encourage vraiment à réaliser des entretiens seuls, qui me laisse même la gestion d'un établissement puisque à l'époque, elle allait sur plusieurs établissements.
Okay.
Et qui me laisse la gestion d'un établissement. Vraiment, là, je commence à être repérée, à gérer moi-même mes dossiers, à recevoir le public jeune, à travailler avec l'infirmière scolaire. Donc voilà. Là,
c'est toi, c'est bien que tu précises l'infirmière scolaire parce que c'est vrai que c'est un vrai partenaire dans les situations en établissement scolaire. Mais du coup, toi, tu commences à développer aussi ton réseau sur les partenaires que tu rencontres, les situations que tu traites, etc. Et quand c'est effectivement toi qui es en direct, ça te donne un peu cette responsabilité de te dire c'est moi qui sollicite le partenaire, donc c'est à moi d'assurer. Effectivement, il y a un peu moins le filet du tuteur ou de la tutrice. Et c'est ça qui est hyper intéressant en troisième année, quand on est plus libre.
Oui, tout à fait, tu as raison. Et puis après, j'ai toujours ma tutrice qui est présente qui valide chacune de mes décisions et avec qui j'échange beaucoup. Mais en tout cas, elle me laisse suffisamment de liberté pour que je puisse me considérer comme presque diplômée finalement, ou en tout cas vraiment me mettre en situation. Et elle me laisse aussi assez libre, je me rappelle, sur les écrits que j'ai à rendre, où finalement elle elle prend pas position parce que, enfin très peu, mais pas dans le sens où elle me laisse, où elle m'abandonne sur cette partie-là, mais plutôt dans le sens où voilà, elle se dit que les choses doivent aussi émaner de moi. Mm-hmm. Et je pense que c'est aussi comme ça que je suis venue me construire en tant que professionnelle. Et vraiment, là, je me sens prête finalement à travailler et à aller sur le terrain.
Ok. Ton mémoire, tu le fais sur quoi, ton mémoire de troisième année? Parce qu'on avait on a un mémoire de recherche à faire. Tu pars sur quel sujet?
Alors, mon premier travail de recherche, du coup, est sur les conditions de vie des familles monoparentales.
Ok.
Et ça s'est plutôt bien passé. Ouais. J'ai pu rencontrer des familles, avec des lectures de beaucoup d'ouvrages, sur beaucoup de supports. Okay. Un travail de recherche classique.
Plutôt classique, mais qui effectivement te permet de rencontrer une population que tu as peut-être peu rencontrée.
Oui. Dans les stages. Et ce qui était intéressant dans ce travail de recherche, c'est que finalement, ça touche toutes les catégories socio-professionnelles, quel que soit le niveau de vie des personnes. Et c'était ça aussi qui m'a intéressée dans ce type de recherche.
Ok, donc tu es diplômée 2015. Tu débarques dans quel service en premier? Qu'est-ce que tu fais en premier de ce diplôme?
Je suis diplômée en 2014 et là...
2015.
Pardon, oui, 2015.
C'est pas grave.
Je suis diplômée en 2015 j'ai déjà une petite idée derrière la tête au moment de passer mon diplôme d'État et j'ai pas finalement je vais pas aller tout de suite sur le terrain.
Okay.
Je vais plutôt continuer mes études.
Ouais.
Je vais aller en licence. Okay. En licence sciences de l'éducation. Pourquoi? Parce que à l'époque où on passait notre diplôme d'État, on faisait 3 ans d'études et on était reconnu Bac+2.
Ce qui est plus le cas aujourd'hui, mais effectivement, on était encore sous cette formule-là.
Et donc, pour postuler éventuellement sur des postes d'encadrement à l'avenir, il fallait à minimum un niveau Bac+3. J'ai eu la chance d'être soutenue à tous les niveaux par ma famille, donc j'ai pu continuer mes études. Et donc, je me lance dans une licence sciences de l'éducation. Pourquoi? Parce que je peux bénéficier d'une passerelle et je rentre directement en L3.
Ok.
Donc je fais cette licence 3, c'est très générique et en même temps c'est très intéressant sur la sociologie de l'échec scolaire, enfin la docimologie. Voilà, c'est vraiment très intéressant et c'est des bases presque communes à tout le monde. C'est pour ça que je dis que c'est très général parce que on pourrait tous bénéficier d'une année de licence puisque c'est intéressant pour tout le monde de comprendre le fonctionnement de notre système scolaire, le système scolaire à l'étranger, etc.
Mais du coup, tu t'extrais un petit peu du travail social que tu as connu pendant les 3 ans. Enfin, voilà, tu t'éveilles à d'autres matières, d'autres connaissances. Ok.
Complètement, c'est complètement différent. Et puis je me retrouve aussi en classe, du coup à l'université, mais avec un peu plus de maturité. Et du coup, ça me dérange pas d'être dans un fonctionnement universitaire. Je me retrouve surtout avec des étudiants qui ont pour projet, eux, d'être professeurs. Et en fait, on n'est pas du tout sur les mêmes projets, puisque moi, mon objectif, c'est vraiment de rester dans le domaine social, mais d'avoir finalement une corde de plus à mon arc et la possibilité de pouvoir évoluer.
Ok, d'accord. Et donc tu valides cette L3.
Je valide cette L3 et puis comme j'en avais pas encore assez, je choisis en fait de continuer en master.
Encore une idée derrière la tête.
Voilà. Okay. Et du coup là je décide de faire un master à Paris.
Ok.
Pourquoi Paris? Parce que je considérais que je pouvais peut-être accéder à des universités peut-être un peu plus cotées. Et puis parce que mon compagnon de l'époque qui est devenu mon mari travaillait à Paris à ce moment-là et en fait Voilà, on est allé 2 ans à Paris, le temps de mon master. Donc, je fais un master 1, études et évaluations dans le secteur sanitaire et social, avec beaucoup de stats, beaucoup d'études, d'évaluations quantitatives, qualitatives, okay. etc. J'effectue un travail de recherche aussi à ce moment-là,
ouais.
Sur les enfants placés et en fait, comment on construit un chez-soi pour ces enfants placés dans des espaces qui finalement sont collectifs.
Okay.
Et c'était très marquant parce que je me rappelle avoir eu comme prof Monsieur De Singly, mm-hmm. notamment, Elsa Ramos aussi. Voilà, c'est des personnes qui influencent ouais. forcément dans Bien les sûr. Apprentissages. J'ai pu bénéficier d'un bel accompagnement pour mon étude, en tout cas mon étude de recherche.
Tu avais rencontré du coup des gens du secteur, qui t'as rencontré ?
Alors du coup, pour réaliser ce mémoire, j'ai intégré une MEX en fait, une okay. maison d'enfants à caractère social. Et là, j'ai observé de l'intérieur le fonctionnement de l'établissement. Donc sous un volet absolument pas travailleur social, mais sous un volet étudiante en master. Mm-hmm. Qui vient observer comment finalement on construit un chez-soi dans ce type d'établissement.
Mais du coup, tu as quand même ton œil un peu travailleur social qui traîne.
Évidemment.
Donc forcément, ça vient enrichir et compléter cette étude, j'imagine, avec un regard finalement terrain aussi. Enfin, voilà.
Et pendant ce master-là, je me retrouve vraiment avec des infirmiers, avec des travailleurs sociaux aussi.
Ouais.
Donc là, voilà, on a une formation qui est vraiment corrélée à nos besoins, en fait, mmh. à notre envie de peut-être évoluer un jour. Et puis, ce regard toujours social, enfin médico-social, dans nos cours. Donc, vraiment intéressant. Et puis à la suite de ça, je me lance dans un Master 2. Mmh. Et je me rends compte qu'il me manque vraiment l'aspect management, en fait, et direction.
Ouais.
Et donc, c'est pour ça que je me lance dans un Master de management de structures sociales.
Ok.
Enfin, exactement, management des organisations sanitaires et sociales, toujours à Paris.
Ouais.
Et puis là, je termine mes études en M2, en étant diplômée de mon Master 2.
Ok. Qu'est-ce que tu fais de tous ces diplômes?
Et là, deux possibilités s'offrent à moi.
Ouais.
Soit la possibilité de travailler sur le terrain en tant que travailleur social, soit d'aller sur un poste plutôt d'encadrement,
mm-hmm.
en sachant que je ne l'ai pas précisé, mais pendant mon Master 1, je travaillais en fait à mi-temps en tant que travailleur social dans un service d'AED parisien. Et en même temps, je faisais mon Master 1 parce que mon emploi du temps se conjuguait parfaitement
okay.
voilà, avec le travail, c'était possible. Et puis cette fameuse MEX où j'avais fait mon stage, je l'intègre après aussi en tant que travailleur social sur des périodes de remplacement.
Mm-hmm.
Et puis à la fin de mon Master 2, donc du coup deux possibilités. Et puis ça a été vraiment un choix difficile parce que je pense que j'avais vraiment envie d'être sur le terrain et d'être avec d'être au plus proche des personnes que je pouvais accompagner. Et c'est ce qui me faisait peur en prenant un poste d'encadrement, c'était de m'éloigner de ça.
Ouais.
Et en même temps, le fait de me dire, OK, t'as fait un M2, finalement, il faut le mettre à profit, ce diplôme. Et donc, je me suis dit, finalement, est-ce que c'est vraiment à moi de juger si je suis à même d'encadrer ou pas? Autant postuler et puis on voit ce qui se passe.
OK. Donc, tu as laissé ton destin, entre guillemets, professionnel aux mains des recruteurs.
Voilà, ouais. Tout à fait.
C'est intéressant en même temps comme démarche. Enfin, parce que finalement, tu aurais mis 6 mois, 1 an à trouver un poste d'encadrement. Tu te serais peut-être dit, bon, allez, OK, je vais repasser un peu sur le volet assistante sociale, puis on verra après. Mais finalement, ce n'est pas ce qui s'est passé.
Donc là, je sors diplômée en décembre, je postule. Et finalement, il y a un poste à la protection judiciaire de la jeunesse. Et puis là, finalement, c'était un poste de responsable d'unité éducative. Et puis, sur une période assez courte, sur le temps d'un remplacement. Et puis, enfin, qui dure à peu près 7-8 mois. Mm-hmm. Et puis, je suis reçue. Et là, je me dis, bon, bah, OK, on te laisse ta chance. D'ailleurs, je remercie les recruteurs de l'époque. On te laisse ta chance. Donc, vas-y, fonce.
Donc, tu commences par un secteur qui est quand même pas simple.
Ouais, je commence par un secteur qui est pas simple du tout, qui est très spécifique.
Ouais. C'est une expertise à part entière, la PJJ, fonctionnement, parce que là, tu touches au côté très droit, très législatif, législation. Fin...
Et puis, les éducateurs, pour le coup, la protection du tiers de la jeunesse, ne sont pas diplômés de l'IRTES.
C'est vrai, oui.
Et donc, c'est un fonctionnement qui est complètement différent. Effectivement, il y a le cadre vraiment législatif qui s'impose dans notre travail, c'est particulier et en même temps, encore une fois, ça me correspondait assez bien puisque j'aimais bien les choses plutôt cadrantes, plutôt cadrées et finalement, ça me plaît en fait. Je réfléchis même pas, je me dis que c'est une vraie opportunité qui s'offre à moi et j'ai pas le droit en fait de la refuser. Et donc, j'arrive sur ce service à la protection judiciaire de la jeunesse où j'encadre une petite équipe qui est composée de 4 travailleurs sociaux, une psychologue et puis un agent administratif. On est sur un hébergement diversifié, c'est-à-dire que j'encadre en fait des jeunes mineurs placés sous main de justice, donc pour qui il y a des mesures pénales.
Oui.
Et le but du travail étant d'éviter la récidive en fait de ces jeunes qui ont pu passer à l'acte. Et donc ces jeunes sont soit hébergés dans des familles d'accueil, soit dans des foyers type jeunes travailleurs, soit dans leur famille nucléaire, famille classique. Sacrée expérience, sacrée aventure.
Tu m'étonnes.
Qui était très, très dense. Assez stressante, je dois dire.
Puis, entrecoupée du coup d'astreinte.
Entrecoupée d'astreinte.
Je me souviens des soirs d'astreinte où tu as le téléphone à côté et tu te dis à tout moment, ça peut sonner et il faut que je reparte. Sans préciser la ville, mais tu n'étais pas à côté de chez toi.
Non.
Est-ce que le fait de ne pas être à côté de chez toi, ça a été sur ces astreintes plutôt stressant parce que tu te dis, voilà, je suis quand même un peu loin et il faut que j'intervienne plutôt rapidement quand il se passe quelque chose. Mais est-ce que ça a été bénéfique aussi?
Je crois que c'était nécessaire, effectivement, d'être assez loin. C'était un premier poste d'encadrement. Je pense que j'avais envie de me tester. J'avais envie de me challenger et de voir ce que je pouvais valoir, en fait, sur ce type de poste. Et le public est un public qui peut parfois être compliqué. C'est très riche, mais en même temps, ça peut être parfois compliqué. Et je pense que j'avais besoin justement de ce temps pour déconnecter quand c'était possible parce que je crois que j'ai rarement déconnecté finalement pendant cette période de contrat, peut-être par le manque d'expérience sur ce type de poste, mais j'avais du mal à déconnecter. Je pense que je me suis mis une pression aussi à vouloir tout comprendre, tout connaître, très vite monter en compétence. Je ne me suis pas forcément laissé le temps. J'ai eu la chance d'être quand même particulièrement bien accompagnée par mon chef de l'époque et mon N+2 aussi. Et puis j'avais une équipe qui tournait bien et qui était au courant de mon parcours. Ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé aussi avec les jeunes. Avec du recul, une très très chouette expérience.
Ouais, expérience positive. Oui. Donc, du coup, fin du contrat de remplacement, du coup, qu'est-ce que tu te dis? Tu te dis, OK, bah, en fait, je vais être cadre, ça y est, je reviens plus travailleur social. Et tu continues tes recherches sur ce secteur-là.
Oui, je me rappelle d'un bilan donc avec mon N+1 et mon N+2. À la fin de mon contrat, où effectivement on fait un petit peu le point et où je me sens aussi valorisée sur ce type de poste, et je me dis finalement ça m'a plu. Et puis à la PJ, j'étais quand même assez proche du terrain aussi. J'accompagnais vraiment les jeunes.
Tu les connaissais.
Voilà. Oui, c'est un service tellement spécial, enfin spécialisé, et on est et avec finalement peu de jeunes pris en charge, de façon à leur proposer un accompagnement qui soit vraiment dense, fait que finalement on connaît tous les jeunes qu'on peut encadrer dans le service. Donc là, je me dis, bon, eh ben, écoute, je continue sur cette lancée, sur plutôt des postes d'encadrement.
Ok.
Et puis là, donc je postule pour un poste dans un domaine complètement différent, dans le domaine du handicap, dans un CESAD, donc c'est un service d'accompagnement à domicile, d'enfants en situation de polyhandicap, pour le coup, avec une équipe un peu différente, puisqu'il y a des travailleurs sociaux, mais pas que. On est aussi sur une équipe plutôt médico-sociale, kiné, ergothérapeute, etc. Et puis... donc, je commence cette expérience pro. Je sens que je suis peut-être un peu moins à ma place pour le coup. J'aime le public très jeune. Alors, effectivement, on était aussi sur des enfants, mais le milieu peut-être du handicap, c'est quelque chose que je maîtrise moins, tant au niveau de la législation qu'au niveau des problématiques et de la connaissance de ce domaine-là. Je me sens peut-être un peu moins à l'aise, et je me rends compte que finalement, c'est peut-être pas fait pour moi de travailler aussi avec des professionnels qui finalement n'ont pas de formation de travailleurs sociaux. J'ai une méconnaissance finalement des métiers médicaux, paramédicaux, etc. Et donc, au cours de ce contrat, je ne cesse de regarder les postes qui sont proposés ailleurs. Et puis là, je passe un entretien dans la fonction publique territoriale. Et puis donc je suis reçue et c'est le poste que j'occupe actuellement. Depuis maintenant presque 2 ans. Et donc là, j'interviens dans un service avec plusieurs missions, une assez grosse équipe pour le coup, sur Dijon.
Quelles sont du coup leurs missions à ton équipe là actuellement ?
Alors j'ai une équipe qui est composée à la fois de travailleurs sociaux, donc assistantes de service social, éducateurs spécialisés, conseillères en économie sociale et familiale, et puis aussi un grand nombre d'agents administratifs. On a, les missions principales sont tout ce qui est lié à l'insertion, ce que j'expliquais au début du podcast, donc tout ce qui va plus être lié à l'accompagnement des familles en termes de budget, de logement, etc. On a des travailleurs sociaux qui sont spécialisés justement sur ces questions de budget, sur endettement, et puis voilà, vraiment le versant budgétaire. On a une partie des travailleurs sociaux qui sont plutôt spécialisés sur les questions de l'enfance, donc tout ce qui va être enfant, admis et puis AED. Et puis j'ai une partie vraiment avec un gros secrétariat, avec beaucoup de postes d'agents administratifs qui traitent notamment tout le volet RSA. Et puis j'ai des agents administratifs qui sont rattachés à chaque mission.
Et toi, du coup, dans ce poste-là, tu te sens plus à l'aise que quand tu étais, par exemple, sur le poste dans le champ du handicap, parce que tu retrouves un petit peu ce que tu avais connu par tes expériences antérieures ?
Alors, je crois que je me sens plus à l'aise dans le sens où on est issu des mêmes professions, des mêmes formations. Donc pour moi, c'est peut-être un peu plus évident. Au niveau des législations, c'est aussi plus clair pour moi. Ça correspond à mon stage de deuxième année aussi, au niveau des problématiques. Donc finalement, c'est un service que je connais et c'est extrêmement diversifié et je crois que j'ai aussi besoin de ça. C'est vraiment intéressant. Je pense que il n'y a pas une journée qui se ressemble où j'ai fait la même chose et avec toujours des nouvelles personnes qui peuvent être rencontrées,
avec des nouvelles problématiques. C'est vrai que t'es sur un service où tant les problématiques que les partenaires, c'est tellement diversifié puisque une situation t'amène à rencontrer plein d'autres partenaires.
Tout à fait.
Tu retrouves un peu ton réseau que t'avais sur tes différents stages et tes premières expériences peut-être aussi.
Tout à fait. Et on est sur un secteur particulièrement où le partenariat fonctionne très bien. Il y a énormément de choses qui sont mises en place, quelle que soit la problématique, que ça soit lié aux enfants ou pas, mais en tout cas le partenariat fonctionne très très bien dans ce quartier de la ville et je crois qu'il y a un vrai aspect partenarial sur des réunions, des commissions de quartier, et voilà, ce que j'aime vraiment, c'est que ce soit aussi diversifié.
Mmh. Ok. Ce qu'on n'a pas précisé du coup sur cette expérience-là, c'est que tu peux accompagner des mineurs et jusqu'à des très grands majeurs, seniors. Donc c'est très ouvert, c'est des personnes seules, familles. Il y a un distinguo que j'ai pas là du coup, parce que ça a été redécoupé.
Oui, oui. Alors en fait, on est donc dans notre ville en tout cas, on accompagne toutes les familles avec enfants. Et les personnes seules bénéficiaires du RSA. Mais pour toutes les personnes seules non bénéficiaires du RSA, ce ne sera pas notre service.
Okay.
Puisqu'en fait, il y aurait trop de demandeurs, ce serait trop compliqué à gérer. Donc voilà, il y a d'autres services qui sont habilités pour ça. Et voilà, donc principalement les familles, c'est ce qui se faisait depuis très longtemps. Et puis là, depuis de nouvelles réformes politiques. On a aussi repris l'accompagnement des personnes bénéficiaires du RSA, personnes seules et couples sans enfants.
Ok. J'ai envie de te poser deux questions que j'imagine les personnes qui vont nous écouter peuvent peut-être se poser. La première, c'est est-ce que ça te manque pas, le métier de travailleur social ?
Alors, je pense que parfois, si. Parce que je pense que parfois j'aurais envie de revenir sur le terrain, notamment au niveau des informations préoccupantes, puisqu'on en fait aussi. Je pense que vraiment ça c'est quelque chose qui peut manquer. Je crois aussi que, si je dois être honnête, j'aurais envie aussi de revenir parfois sur des postes de travailleur social pour peut-être... être moins sur un poste finalement stratégique et puis être finalement peut-être plus détaché des prises de décision, etc. J'exclus pas la possibilité un jour de peut-être reprendre un poste de travailleur social. En fait, je crois qu'il y a des périodes dans une vie et à l'heure d'aujourd'hui, encore une fois, j'ai envie d'être un peu bousculée dans mon travail et je suis quelqu'un d'assez dynamique. Voilà, c'est aussi ce que je suis venue rechercher sur ce type de poste, hein. Mais j'exclus pas la possibilité un jour de revenir sur un poste de travailleur social que je trouve très intéressant, en perpétuelle évolution. Donc, voilà. Et puis la richesse de notre métier aussi, c'est de pouvoir changer de métier quand on change de service finalement, en fonction des personnes qu'on accompagne, c'est pas forcément les mêmes partenaires, c'est pas le même public, c'est pas les mêmes problématiques. On peut être sur du rural, sur de l'urbain.
Mais puis tu l'as expérimenté quand t'es parti sur le pôle handicap, enfin le champ du handicap, on va dire. Là, tu tombes sur une politique que tu connais moins, que tu maîtrises moins. Peut-être que si ton appétence s'était développée, tu te serais complètement éclaté. Bon, c'est pas le cas, et comme je le précisais dans l'intro du podcast, on a tous nos préférences, et oui, ça existe, et heureusement. Bon, bah là, t'a pas forcément matché, et encore, j'ai pas l'impression que c'était rebutant pour toi de bosser dans ce service-là, c'était plus une histoire d'affinité. Bon, bah voilà, tu changes, et hop, tu rembrayes sur quelque chose de nouveau, donc oui, c'est hyper riche, effectivement.
Tout à fait.
La deuxième question que j'ai envie de te poser, c'est parce que je pense que certaines personnes vont calculer, là, à peu près. Et puis, tu as dit ton âge au début. Qu'est-ce que tu leur réponds aux personnes qui disent que tu es trop jeune ? Ou que tu es jeune ? Peut-être enlève le trop, mais que tu es jeune, en tout cas.
Personne n'a eu la franchise de me dire ça un jour. Personne ne me l'a dit. Peut-être à part mes chefs, finalement, mais... Sinon, personne n'a eu la franchise dans les personnes que j'encadrais de me dire ça. Mais je pense qu'effectivement, c'est pensé. Et je crois que c'est un travail que je dois faire, de prouver de ma valeur professionnelle. Je ne peux pas mentir sur mon âge. Je ne pense pas que ce soit une faiblesse. C'est des questions qui étaient récurrentes dans mes entretiens.
Oui, quand même. C'est...
Bien sûr.
Oui, j'avais un souvenir de ça.
Mais oui, c'est une question qui était récurrente. Au même titre qu'on peut dénoncer le fait qu'on n'embauche pas quelqu'un qui est proche de la retraite parce qu'on juge qu'il va peut-être pas être assez performant, et ben finalement j'ai été entre guillemets victime peut-être sur certains entretiens de cet aspect jeunesse, mais au final j'en vois plutôt une force. Et puis effectivement, je peux pas éviter le fait que les professionnels puissent se questionner sur mon âge et puissent remettre des choses en question à ce niveau-là. J'estime que c'est peut-être à moi de prouver de ma valeur, ce que je me répète. Hein. Et puis, ça fait partie de qui je suis.
Oui, bien sûr.
Donc, voilà, c'est... Ça fait partie, c'est une des composantes en fait.
Bien sûr, ok. On va passer sur des petites questions que je pose un petit peu à la fin de l'échange, en tout cas d'avoir retracé le parcours. Est-ce que toi, alors c'est toujours un peu délicat parce qu'on n'a pas une expérience de 20 ou 25 ans dans le social ou voire plus, donc... Je sais pas toi, mais est-ce que tu vois un changement, une évolution entre le travail social que tu as connu quand on a démarré l'IRTES il y a 10 ans et maintenant ? Est-ce que tu perçois une évolution ou pas ?
Alors, je pense que c'est peut-être une évolution que... dans la perception que moi, j'avais du travail social, c'est-à-dire que... Quand j'ai été diplômée, j'avais cette envie de révolutionner peut-être les choses. Mmh. Et avec un peu plus de recul, qui est assez court finalement, comme tu le dis, hein, mais mmh. avec ce recul, je me rends compte que j'avais absolument pas la dimension du temps, des personnes qui s'imposent à nous dans le travail social. Et que finalement, nos objectifs et nos aspirations ne sont pas forcément les aspirations des personnes qu'on peut suivre. Et ce qui est primordial, c'est de respecter leur rythme. Et je crois que j'avais plutôt une vision assez utopique de ce qui pouvait être mis en place très rapidement. Et en fait, on se rend compte que c'est pas si évident d'aller vite et que je sais même pas si c'est nécessaire finalement d'aller vite.
C'est vrai que quand on débarque, on se dit la personne va pas bien, il faut aller vite, il faut changer pour qu'elle soit mieux et un mieux en fait que nous on projette mais qui est pas forcément le mieux de la personne.
Tout à fait.
J'ai eu pas mal de retours sur des personnes qui me disaient mais c'est intéressant quand les invités ils donnent des petites situations qu'ils illustrent un petit peu. Est-ce que toi là t'aurais une situation parmi toutes tes expériences, pas forcément quand t'étais AS ou plus cadre en fait, l'un ou l'autre, d'une situation qui t'a un petit peu traversé, un petit peu marqué, que t'aimerais nous raconter un petit peu ici pour illustrer?
Alors, dans les situations qui m'ont marqué, mais qui en tout cas sont venues déconstruire certaines idées reçues qu'on peut avoir et que les gens peuvent avoir de ce qu'est le travail social et des personnes qu'on peut suivre, c'est que quand j'ai travaillé à Paris, j'étais en charge de certains arrondissements assez huppés. Et effectivement, j'ai pu être confrontée à des personnes qui étaient suivies dans le cadre de la protection de l'enfance avec des postes très très haut placés, voire des personnalités même connues. Hein. Et en fait, on se rend compte que les problématiques sociales ou d'addiction et les problématiques liées à la prise en charge des enfants est complètement décorrélée du milieu d'où on vient et décorrélée de cet aspect financier dans lequel on grandit. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête. C'est qu'en fait, notre métier, il concerne tout le monde. Et on peut tous un jour avoir besoin, mm-hmm. dans un premier temps. Et puis, on peut tous un jour être en difficulté sur un point, qui soit financier, lié à l'enfance, etc.
Donc, toi, là, quand tu es en poste sur ton remplacement à Paris, dans ton service d'aide éducative à domicile, c'est ça, on précise, du coup, AED, tu débarques dans une famille où, effectivement, tu le disais, il y a des personnes qui occupent des postes haut placés. Et quel ressenti tu as ? Comment tu abordes les choses c'est sur tes premiers postes finalement. Est-ce qu'à un moment donné, tu te dis pas, moi, je vais aller donner des billes, des conseils, je vais essayer de médiatiser un peu dans une famille où ça se passe mal et en face de moi, j'ai une personne qui est haut placée, qui a certainement, un avis ou un gros préjugé sur le travail social peut-être. Comment tu gères ça ?
Complètement. C'est des personnes qui sont tout à fait en capacité de remettre en cause le travail et l'aide qu'on peut apporter. Hein. Mm-hmm. Et c'est pareil, ça fait partie de l'accompagnement. La manière dont j'ai traité en particulier cette situation, c'est exactement de la même manière que les autres, parce que je crois qu'il faut respecter le principe d'équité finalement. Mmh. Et donc, voilà, on intervient parce qu'à un moment donné, il y a un besoin. Voilà, on a repéré certaines difficultés, on se doit d'intervenir. Et puis, voilà. Donc, en fait, aucun traitement de faveur lié à la profession.
Ouais. La rigueur et la rigidité dont tu nous as parlé. Moi, j'aime le cadre, c'est ça que tu...
Voilà, c'est ça.
Donc, le cadre, il se transpose partout.
Non, voilà, c'est ça. Et après, sur le fait d'amener des billes, je pense que on fait des métiers différents. Avec cette personne, on faisait des métiers différents. Je pense que chaque situation est venue m'apporter certaines connaissances, certaines compétences, etc. On est dans un échange. Et puis nous, de par notre profession, on peut aussi apporter peut-être un peu de billes et en tout cas venir peut-être semer des graines. Et c'est l'objectif de notre travail.
Oui, complètement. Ok, donc tu t'en sors plutôt bien finalement sur ce... Non, mais c'est pas évident parce que si on l'a jamais appréhendé, arriver dans une famille où effectivement on est, mais que ce soit pour tous les milieux où on n'est pas attendu et pas accepté, où c'est entre guillemets un peu une contrainte plutôt qu'une demande de la part des personnes, c'est toujours très délicat. Et encore une fois, je le redis, ça dépend vraiment des milieux. Mais ok. J'avais une dernière question avant de passer sur les trois petites questions de la fin. Est-ce qu'à un moment donné, il y a eu un impact sur ta vie personnelle sur tes deux casquettes, hein, il n'y a pas plus une que l'autre, mais où tu ramenais un petit peu, où c'était compliqué de prendre un peu de distance, ou voilà, est-ce qu'il y a eu un impact ou pas?
Alors, je dirais que oui, hein. Ce serait mentir que de dire que non. Mon poste à la PJ, forcément, j'avais, je pense, beaucoup de mal à déconnecter. Du fait que ce soit certainement le premier poste, mais voilà, aussi l'engagement était tellement important que je crois que ça ne s'arrêtait pas à la fin de mon travail. Et puis, je crois que le type de poste que j'occupe nécessite finalement parfois des échanges avec son compagnon qui peut avoir un regard extérieur. On est sur des prises de décision, on travaille avec des travailleurs sociaux qui peuvent parfois avoir des choses à revendiquer, hein, à juste titre, mais voilà, je pense que c'est... rien n'est figé et je pense que c'est nécessaire d'en débattre. Je crois aussi que c'est essentiel de pouvoir avoir des espaces où on ne pense pas au travail, hein, quel que soit le travail. Pour le moment, c'est quelque chose que j'arrive à faire. Mm-hmm. Je crois que le jour où j'arriverai plus à le faire, peut-être qu'il sera temps de penser à autre chose, de penser à un autre métier, à une reconversion.
Justement, ça fait partie, du coup, très bonne transition de mes trois questions pour conclure. Si tu devais faire autre chose, ce serait quoi? Qu'est-ce que tu aimerais faire?
Je pense que j'ouvrirai un café.
Ok. Alors attends, parce que moi j'ai un peu de billes sur le café, mais ceux qui nous écoutent en ont pas trop. Mais ça serait pas un café classique.
Non, ce serait pas un café classique.
Ouais.
Ce serait plutôt un café working.
Ouais.
Ouais, ça serait une belle piste.
Ouais.
Et pourquoi pas un projet. Je trouve que ça pourrait être chouette, avec toujours cet aspect finalement relationnel. Hein. Mm-hmm. Je pense que c'est nécessaire, je pense que j'en ai besoin.
Avec des projets toujours à l'intérieur de ce café.
Tout à fait.
Ok. Si tu avais une baguette magique, la fameuse baguette magique dont on parle très souvent, qu'est-ce que tu ferais?
Alors, je pense que j'effacerai les listes d'attente des services de pédopsie ou des services de protection de l'enfance, etc. Ma deuxième proposition, ce serait d'imposer la formation aux travailleurs sociaux et à tous les professionnels du social, c'est-à-dire de l'agent administratif à l'encadrement, les travailleurs sociaux, etc. De l'imposer avec peut-être des formations vraiment obligatoires, que ce soit intégré à leur temps de travail, peut-être annuellement. Enfin, je ne sais pas comment on pourrait imaginer les choses, mais en tout cas qu'il y ait des formations vraiment continues, que ça soit sur les écrits, sur des problématiques particulières, sur les besoins qui peuvent être repérés. Voilà, je crois que c'est vraiment nécessaire. Je pense que ça permet d'éviter de se lasser de son métier.
C'est vrai, c'est ce que j'allais te dire. C'est... Et puis ça peut te remettre en perspective, je pense notamment aux travailleurs sociaux, quand on va en formation sur quelque chose qu'on ne maîtrise pas trop, qui n'est pas de l'ordre des problématiques qu'on traite d'habitude, peut-être que ça permet un éveil aussi et que du coup les gens oseraient plus se dire bah, « Tiens, je pars travailler sur un service qui traite ça, ça m'intéresse. Oui. » Et le service pour lequel j'œuvre depuis 15 ans, ben, où je me sens un peu en boucle, et ben, j'ose aller ailleurs. Oui. Quoi. Ouais. Et ça évite l'épuisement, peut-être.
Je pense que ça peut éviter l'épuisement. Et puis, je pense qu'on est peut-être plus pertinent aussi auprès des personnes Bien qu'on sûr. Peut accompagner. Je pense que ça peut aussi permettre de former ses propres collègues, peut-être, d'évoquer des situations. Enfin, voilà, je pense que c'est tellement diversifié que le travail social, c'est un puits sans fond. Donc, on n'a pas la connaissance sur tous les sujets. Et je crois que l'idée de la formation, elle est infinie. Et je pense que ça pourrait vraiment être important. Ça permettrait aussi, quand on a la tête un peu dans le guidon, de pouvoir prendre un peu de hauteur et de voir les choses peut-être voilà, avec un peu plus de hauteur pour mieux accompagner les personnes.
Ok, ouais, moi je trouve que c'est une très bonne idée. Je vote pour. Donc, ce que j'aime faire dans l'échange pour conclure, donc l'invitée précédente t'a posé une question et toi tu vas devoir poser une question au futur invité. La question qui t'a été posée, c'est qu'est-ce qui a été le plus dur dans ton premier job ou en tout cas tes premiers pas dans le social ?
Alors, je pense que ce qui a été le plus dur, c'était de me rendre compte que certaines situations existaient vraiment et qu'on n'était pas sur l'ordre du film ou des situations qu'on a pu nous présenter, mais vraiment de faire face à, notamment à la maison de l'enfant, à des armoires qui peuvent être vides, à des enfants qui sont vraiment abîmés de par leur parcours.
Et jeunes.
Des très très jeunes, très très jeunes enfants. Voilà, je crois qu'il y a vraiment un gap entre ce qu'on peut imaginer et ce qui existe vraiment. Je pense que ça serait vraiment intéressant de se rendre compte parce que finalement, dans les publics qu'on accompagne, il y a certaines populations qu'on ne rencontre jamais, qui eux aussi sont invisibles. Et c'est bien dommage. Et en fait, ces personnes-là existent, il y a des besoins. Et je me rappelle effectivement les armoires vides et si jeunes, avoir eu un parcours aussi cabossé, c'est une vraie leçon de vie. Je veux dire, on ne rentre pas... On rentre pas indemne chez soi le soir après un service quand on observe ce genre de situation.
C'est vrai, c'est complètement vrai ce que tu dis et je trouve que c'est une belle conclusion de cet échange aujourd'hui. Et toi, du coup, ta question au prochain invité, qu'est-ce que ce serait ?
Comment est-ce que la personne suivante voit notre métier dans 20 ans ?
Ok, c'est intéressant à l'heure du numérique et de sa fracture, justement. Ok, merci beaucoup Noélie, en tout cas, d'avoir accepté de répondre à toutes mes questions et j'espère que ton parcours, qui est très très inspirant pour moi en tout cas, d'être une fonceuse et voilà, d'avoir gravisé les échelons par les diplômes, par les postes que tu as occupés, donnera un petit peu une possibilité. C'est un parcours, c'est le tien, c'est une possibilité que t'offres aux jeunes travailleurs sociaux qui se questionnent un petit peut sur aller sur le terrain ou continuer. Merci beaucoup.
Merci à toi, Camille. Because what you defend is a gift in your hand. You just have to be proud, say it clear and loud. Because what you defend is a gift in your hand. Just have to be proud, say it clear and loud.